C'est très difficile de préciser l'ordre de ces jugements de sagesse. Je crois qu'il y aurait nécessité de voir d'abord tous ces jugements de sagesse et puis ensuite de les ordonner. Il y en a un que je crois très important, étant donné que le sommet de notre intelligence humaine, c'est de voir ce qu'est la personne. Le sommet de notre intelligence humaine n'est pas du côté de la nature. Alors il faudrait se demander si ces deux manières de connaître, genre et différence spécifique, raison et mode analogique, correspondent à la distinction nature-personne. Vous comprenez? Bon. Notre intelligence, elle se développe d'abord naturellement. Vous n'avez pas demandé à celle qui vous éduquait qu'est-ce qu'il faut faire pour être intelligent. Je ne sais pas à quel moment vous êtes posé la question. Mais vous avez commencé tout simplement dans l'éducation qu'on vous donnait. Alors, il y a diverses manières d'éduquer un enfant à devenir intelligent. Mais la plupart du temps, les éducateurs ne réfléchissent pas beaucoup sur la métaphysique. Donc sur le jugement de sagesse. C'est quelque chose qui reste à l'usage seulement de quelques personnes. Et il me semble qu'il y a un problème donc très important, c'est d'essayer de juger au point de vue sagesse ces deux manières de connaître. La manière univoque et la manière analogique. Pourquoi ces deux que je constate? Je les constate chez Aristote comme une dimension capitale chez Aristote. Et je constate chez Descartes, au contraire, l'union des deux. Alors, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une régression? Descartes est-il dans le progrès? Il veut l'être, ça sûrement. Ou est-il quelqu'un qui n'a pas dépassé le cap et qui est retombé sur lui-même? C'est une question, hein. Lequel est dans la vérité, Aristote, Descartes? On doit être un peu spécialiste des deux, hein. Surtout les Français. Descartes. Mais le Descartes de chaque pays, il faut le déterrer, il faut le comprendre. Quel est le Descartes pour l'Allemagne? Quel est le Descartes pour l'Angleterre? L'analogue à Descartes. C'est-à-dire, l'analogue, c'est pas Descartes, c'est Hume. L'analogue à ce premier théologien qui a commençait tout faussé. Et ce premier théologien était anglais. Il était franciscain et anglais. Et Descartes français est arrivé après plusieurs générations. En Angleterre, Hume joue un rôle plus important. Et c'est la même chose, c'est la même erreur. Hein. C'est la même erreur, c'est-à-dire, c'est l'erreur qui consiste à considérer que le premier objet qu'on connaît, c'est sa connaissance. C'est le repli radical sur soi. Je connais. C'est Hume, premièrement. Et le protestantisme de Luther a été directement dans la même ligne. C'est Luther qui est passé du catholique au protestant. Mais il est passé du catholique au protestant par la même erreur. C'est l'erreur qu'il avait qui l'a rendu protestant. Le protestantisme est né d'une erreur intellectuelle. C'est impressionnant, tu vois. Et le protestantisme risque d'envahir le catholicisme par l'intelligence. Luther et Gueule. Luther, l'histoire de Luther, du Luthéranisme, c'est Luther le père et Hegel le héros. Mais c'est la même erreur. Et ça qui est intéressant, que c'est une erreur intellectuelle. Comme ça qu'il est peut-être pardonnable. Ce qui peut garder un cœur plus ou moins pur. Luther, on sait que la pureté de son cœur, ça a varié. Hegel, je ne connais pas assez l'histoire personnelle de Hegel pour savoir si c'était un être qui, moralement, a été très édifiant. Mais je ne sais pas, point d'interrogation. Il faut que vous recherchiez ça. Mais c'est très curieux, hein, que le point de vue philosophique a été à la base de cette erreur. Et le protestantisme a été la première grande blessure pour le catholicisme. Je ne considère pas que les orthodoxes, c'est la grande blessure, puisque les orthodoxes ont gardé l'essentiel. Donc ce n'est pas la grande blessure. Et l'essentiel, c'est l'Eucharistie. C'est de considérer que dans l'Eucharistie, c'est Jésus. Eux n'ont plus gardé ce réalisme-là. Alors, dès que vous touchez l'Eucharistie, tout de suite. Je trouve que c'est très éclairant pour nous de voir que cette grande erreur est intellectuelle. Donc, jugement de sagesse est important là-dessus. Pourquoi l'intelligence a-t-elle deux registres ? telle nuance univoque le registre d'une intelligence dite analogique. Puis-je philosophiquement montrer que toute intelligence créée n'a plus et ne peut plus garder son unité substantielle. Première chose, on va s'approcher. Je m'approche avec vous. Je n'ai jamais traité cette question. Et il faut la traiter, étant donné l'importance jusque maintenant, j'ai fait comme vous. J'ai accepté qu'il y a connaissance univoque, connaissance analogique. Mais pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est quand même intéressant de se poser la question. C'est une question de connaissance, donc ça relève directement de la critique. Et de la critique et du jugement de sagesse. Pourquoi ça ? Le pourquoi de ça est quand même très très intéressant, puisque c'est le pourquoi de cette erreur du protestantisme, cette erreur de Hume. C'est quand même très intéressant. Première distinction, du fait même qu'on est créature, il y a une distinction entre intelligence et volonté. Le pourquoi de cette distinction, c'est que intelligence cherche à connaître l'intelligibilité des réalités et que l'intelligibilité de ces réalités se distingue de leur réalité. Donc la conséquence immédiate de la différence entre essence et existence, et nous avons vu que cette première distinction essence-existence fondait la distinction nature et personne. La distinction nature et personne se fonde sur la distinction essence et existence. Et que dans toute créature, l'existence est autre chose que l'essence. Pourquoi ? Parce que la créature n'existe qu'en fonction du bon plaisir de Dieu. Elle dépend du bon plaisir de Dieu. Tandis que l'essence de la créature, son essence, est impliquée dans la nature même des choses. Dieu ne peut pas, autrement dit, Dieu ne peut pas faire que 2 et 2 soient 4, soient 5. Grosse question théologique. Est-ce que Dieu est au-dessus de la contradiction ? Est-ce que Dieu, ou bien il y a des règles intelligibles qui viennent de Dieu ? Qui viennent de Dieu, c'est pas Dieu qui est limité ces règles intelligibles, elles viennent de Dieu. Parce que Dieu est le sage. Et donc, tout ce qu'il pense est intelligent. Et tout ce qu'il réalise implique son intelligence et son bon plaisir. Donc, dans toutes les réalités, vous avez quelque chose qui est intelligent, puisque ça vient de Dieu. et quelque chose qui peut très bien ne pas être, puisque c'est le bon plaisir de Dieu que ça existe. En toute réalité, vous avez la distinction entre intelligence et entre l'intelligibilité de la chose et son existence. Ça, c'est la première distinction. Toute réalité créée dépend de Dieu, dépend d'un premier. Donc toute réalité créée est de. Il y a une dualité dans toute réalité créée. La simplicité de l'être n'existe qu'en Dieu. Bon, ça, c'est acquis. Tout le monde peut comprendre ça. Parce que si on est créé, on est second. On n'est pas premier. On dépend d'un être tout en existant. Donc il y a deux choses. On dépend d'un être tout en existant. Et ça, c'est capital. C'est la première exigence de la créature. Alors, quand il s'agit d'un être vivant, est un être intellectuel. Son intelligence est distincte de sa volonté, bien que les deux sont spirituels. Donc dans toute créature, il y a une différence entre l'intelligence et la volonté. Autre chose est de connaître la réalité, autre chose de l'aimer. Et cette distinction-là est propre à tout être créé, à tout être spirituel créé. Et ça dépend de cette première distinction entre essence et existence. Et donc, nous essayons de voir, de préciser comment ces distinctions que nous constatons, je constate la différence entre l'intelligence et la volonté, je constate que c'est autre chose de connaître la réalité et de l'aimer, autre chose est de comprendre pourquoi il y a cette distinction dans tout être créé. Et là, c'est un jugement de sagesse. De comprendre que dans toute créature, il y a une distinction entre connaissance et amour. C'est nécessairement comme ça. Ça ne peut pas être autrement. C'est le propre de la créature. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que le propre d'une intelligence créée et de connaître cette division entre appréhension et jugement. Puisque c'est la division fondamentale qui est dans notre intelligence. Distinction fondamentale qu'Aristote a découvert, que nous répétons, persuadé que c'est bien cela la différence courante que nous constatons dans les intelligences. C'est que nous-mêmes nous connaissons et puis que nous-mêmes nous regardons comment ces choses que nous connaissons peuvent exister. Essence et existence. Appréhension et jugement. Connaissons ça. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je puis dire que dans toute intelligence créée, il y a une distinction entre appréhension et jugement? ces conditions-là. Est-ce que dans les anges, j'ai cette distinction-là? Est-ce que c'est bon pour l'homme? Est-ce que c'est propre à l'intelligence humaine ou c'est propre à l'intelligence créée? C'est pas si comme ce que ça de répondre. Hein, est-ce que, en prenant la distinction appréhension et jugement, cette distinction qu'Aristote considère comme fondamentale pour la vie de l'intelligence, on touche à quelque chose qui est propre de l'intelligence créée ou propre de l'intelligence humaine. Si je vous demandais d'y répondre, ce serait amusant. Spontanément. Puis il faut réfléchir après pour penser. Est-ce que l'ange connaît comme Dieu? Ou est-ce que l'ange pouvait avoir la foi? Vous comprenez que la foi est possible si je fais la différence entre appréhension et jugement. Puisque j'ai un jugement et j'ai une non-connaissance. J'ai un jugement de foi. Je dis Dieu existe. Dieu est Trinité. Et je n'ai aucune intelligibilité de ce que j'affirme. Donc, il faut bien, pour que la foi puisse exister, qu'il y ait un jugement nouveau et que, au point de vue intelligibilité, non. Ce serait déjà très intéressant de voir ça, de voir que la distinction entre appréhension et jugement est nécessaire pour saisir ce que représente le jugement de foi. C'est la première chose qu'on doit voir, ça. La foi serait inintelligible, absolument impossible à comprendre, si il n'y a pas de distinction entre jugement et appréhension. Donc, le surnaturel qui commence par la foi serait inintelligible pour ceux qui n'ont pas la distinction. Vous voyez que ça va très loin, ça. Parce que toutes ces philosophies modernes ne font pas la distinction entre appréhension et jugement, depuis Descartes. L'entendement. Est-ce que l'entendement est appréhension ou est-ce que l'entendement est jugement? Il est les deux. Alors, comment peut-il y avoir un jugement de foi qui implique une adhésion à la vérité révélée et qui implique une non-connaissance de ce qui est affirmé. Une non-connaissance intelligible. C'est vrai. La foi implique une non-connaissance et un jugement. à l'intelligibilité et au jugement. Et par le fait même, on a ce fait assez curieux, c'est que le jugement va plus loin que l'appréhension. Alors que nous disons, au point de vue philosophique, que l'appréhension est antérieure au jugement. Donc il faut marcher sur la tête. Ça, c'est très très important. Parce qu'on a constamment des gens n'ayant plus la foi et leur faire comprendre que la foi. Et ça vient très souvent chez les intellectuels parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre appréhension et jugement. Or, pour corriger, pour rectifier, il faut savoir où est l'erreur. Est-ce que l'erreur fondamentale, c'est ça? Arriver à faire comprendre que cette erreur fondamentale, elle doit être dépassée. Parce que la distinction appréhension et jugement, c'est une distinction naturelle. Donc évidente. C'est évident pour vous, j'espère, moi. Que l'appréhension est évidente, qu'elle n'est pas le jugement. Que vous pouvez juger sur des choses que vous n'appréhendez pas par vous-même, mais grâce au secours de Dieu. Il y a une distinction fondamentale. Et je comprends que si cette distinction-là n'est pas, la foi devient stupide. Il faut croire. Et il ne faut pas connaître. Et vous dites, la foi est une connaissance. Ça devient stupide. Et ça, c'est quand même très important à saisir pour nous. De saisir que leur système philosophique les ferme à la foi. Ils empêchent d'adhérer à la foi. Parce que leur système philosophique a une conception de l'intelligence qui est fausse. Il faut que nous ayons une conception de l'intelligence juste pour croire. Alors évidemment, Dieu peut faire que on se convertisse et on ait un système philosophique faux. J'ai demandé à certains philosophes convertis si cette conversion de leur intelligence agissait directement sur leur conception idéaliste. Alors, celui à qui j'ai demandé ça m'a répondu non. J'ai exactement la même philosophie qu'avant. Il était kantien. J'ai exactement la même. Et ça ne vous gêne pas. Je suis converti par Dieu. Je sens bien, ça ne colle pas bien. Un kantien qui se convertit, c'est-à-dire qui croit. Un kantien qui est protestant, ça va. Mais un kantien qui est catholique, ça ne va plus. Un protestant peut être kantien. Un catholique ne peut pas être conscient. Parce que le catholique, dans son acte de foi, accepte de ne pas connaître à ce qui est demandé sous l'autorité de Dieu. Donc, il distingue l'intelligibilité et l'adhésion de foi. L'adhésion de foi se fait par amour pour Dieu. Et cette adhésion de foi est au-delà de l'intelligibilité. Parce qu'il fait la distinction. Mais si vous ne faites pas la distinction entre intelligibilité et existence, dans tous les idéalismes, vous voyez, il est coincé. Alors, sous la grâce de la foi, il dit, je ne comprends pas, ça ne fait rien. Mais continuez à rester dans l'erreur. Est-ce possible? Je crois que pour nous, c'est très important de saisir ces choses-là. Parce que combien sont idéalistes aujourd'hui? Idéalistes de multiples façons. Pas nécessairement idéaliste à la façon de Platon, mais idéaliste à la façon d'un positiviste qui est idéaliste. Sa connaissance scientifique, c'est la vérité, c'est la réalité. Il adhère au réel par sa connaissance idéaliste. Alors, on doit comprendre cela. Je le convertis. Et lui montrer que sa conversion, il adhère à la parole de Dieu. Il reconnaît que la parole de Dieu est une parole de vérité. Et pourtant, il ne voit rien. Donc, on peut ne pas voir et adhérer. Et on adhère par l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui me parle, mais ce qui me dit, je ne comprends pas. Mais Dieu me parle, puisque c'est Dieu qui convertit mon cœur, je l'aime. Et parce que je l'aime, j'accepte ce qu'il me dit. Et je ne comprends rien. Et donc, il est obligé à ce moment-là de faire un double acte de foi, je dirais. Un acte de foi normal, la parole de Dieu, et un acte de foi anormal vis-à-vis de ce qu'il connaît. Ce qu'il connaissait avant, sa manière de connaître. Qui demande d'être rectifié. Voyez, on l'aurait, ça, d'une façon très simple, au point de vue affectif. Quelqu'un qui est habitué à se saouler tous les soirs, il se convertit. Et le soir existe pour le converti. Et le soir, humainement, il y avait cette identification de se saouler pour mieux dormir. Et là, il est converti, mais il continue de saouler. Et vous aurez le cas du pauvre type qui vient se confesser. Et puis vous allez dire, oh, je ne peux pas te donner la solution parce que tu te saoules régulièrement. Ou bien vous allez dire, tu te saoules régulièrement parce qu'il y a une mauvaise habitude en toi. vie. Et alors, vous absolvez le pauvre type, même s'il a cette mauvaise habitude. Petit à petit, ça ira mieux. Bon, tous les jours, un petit peu moins. Puis au bout de 8 jours, le verre sera vide. On y va petit à petit. Il vous recevait beaucoup d'amour, bien que vous savez que le soir il va se saouler. Intellectuellement, vous avez beaucoup plus de peine à accepter qu'il se saoule avec Kant. Quant à son intelligence. Mais c'est la même chose. Mais nature personne. La personne est convertie, mais la nature est habituée. Est habituée à la connaissance. Elle est habituée au verre de vin. Il faut être très attentif à ça. Donc elle a dit, vous pardonnez non pas la nature, mais la personne. Il ne faut pas oublier. Et la personne est isolée, que sa nature s'est déformée de cette façon-là. Je voyais, ça, personnellement, je ne cite pas le nom, c'était pendant la guerre. Il était pharmacien. Toutes les pharmacies étaient. Et lui travaillait alors comme la moitié du temps de la nuit. Il était éreinté et il s'est habitué à prendre de l'alcool à 90 degrés pour pouvoir tenir bon. Et venez se confesser. Il est un brave homme, un saint homme. À sa façon, de charité. Mais tous les jours, il se saoulait. Et là, vous allez lui refuser la pulsion. Parce que c'est sûr qu'il se saoulait par habitude et non pas volontairement. C'était la nature et la personne faiblie. La personne venait se confesser et la nature faisait que celui qui s'était confessé à midi, le soir se saoulait. C'était sa nature. Et si vous ne faisiez pas cette distinction-là, vous avez dit, mais non, tant que tu n'es pas réveillé, je te pardonne pas, au nom de Dieu. Je ne peux pas te pardonner. Et comme on est injuste. Alors, il y a là un problème qui est au fond très important. Notre intelligence, naturellement, comme une intelligence de créature, a un double mode de connaissance. Connaissance par genre et différence spécifique. Cette connaissance est naturelle. Chez un Chinois, est-ce qu'on retrouve le même type de connaissance? C'est une question intéressante. Parce que leur connaissance n'est pas du tout du même type. Naturellement aux autres. Alors ce naturel n'est pas naturel. Il est la coutume. Sans compter très loin. Est-ce que notre naturel est une coutume ou une naturelle? On lui dit je connais par genre et différence spécifique. connais par analogie. Est-ce que c'est une manière d'être qui est chrétienne, qui est thomiste, qui est aristotélicienne, ou bien c'est une manière d'être naturelle? C'est quand même intéressant de savoir ça. Je regarde tout dans un jugement de sagesse. Le jugement de sagesse doit pouvoir discerner, doit faire le discernement entre ce qui est naturel et ce qui est habituel. Ce qui est naturel, peut être habituel. Et ce qui est habituel n'est pas nécessairement naturel. On doit pouvoir faire. Alors, je vous pose la question, appréhension et jugement, la distinction entre les deux, que je vois nécessaire pour la question de la foi. Donc, j'ai un a priori en raison de la foi qui me dit que c'est naturel. Parce que la foi regarde la nature et non pas les coutumes. La foi venant de Dieu atteint directement la nature. Or, dans un acte de foi, vous faites la distinction entre l'intelligibilité et l'adhésion du jugement. Et l'adhésion du jugement, je crois, en la très sainte Trinité, je crois, se fait indépendamment de l'intelligibilité, puisque je n'y comprends rien. Je suis au-delà et j'adhère. Donc cette distinction-là qui est présente dans mon acte de foi, elle doit être naturelle. Alors, j'avance, il faut que je découvre qu'elle est naturelle. Ça, la foi ne me montre pas que c'est naturel. La foi me dit que tout ce que Dieu me demande de croire n'est pas contraire à ma nature, mais est au-dessus de ma nature. Voilà ce que l'Église me dit. Et voilà ce que je crois aussi que Jésus me le demande. Donc, il y a un a priori, vous comprenez ? Pour le chrétien, il y a un a priori de dire en tant que chrétien, puisque j'ai un jugement, un acte de foi, je distingue appréhension et jugement. Et tant que vous distinguez appréhension et jugement avec cet a priori parce que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas philosophe. Mais si maintenant nous cherchons ensemble, est-ce que la distinction appréhension et jugement, qui doit être naturelle, selon ma foi, comment est-elle naturelle? Oui, je creuse. Je peux dire, premièrement, que toute intelligence créée est une intelligence qui n'est pas substantielle. L'intelligence chez la créature n'est pas la substance de la créature. Il n'y a qu'en Dieu où l'être et l'intelligence ne font qu'un. Ça, l'intelligence peut le discerner. l'intelligence pour une créature est toujours un accident. Une propriété n'est pas sa substance. Donc, par le fait même, c'est une activité naturelle qui dépend de sa nature. Cette activité naturelle, pour l'intelligence humaine, est une activité qui est accompagnée de la sensation. Mon intelligence fonctionne avec mes expériences, avec mes sensations. Et pour arriver à l'universel, objet d'intelligence, il faut abstraire. Donc l'abstraction est connaturelle à mon intelligence humaine, pas celle de l'ange, parce que je connais et je commence à connaître à cause des sensations. Donc je découvre que c'est comme naturel à mon intelligence d'abstraire selon l'abstraction universelle. Mais je peux dire aussi que mon intelligence humaine est liée au sens, mais mon intelligence humaine demeure intelligence. Et c'est pour ça qu'il est normal que l'intelligence humaine a son mode humain et que l'intelligence humaine réclame son mode propre d'intelligence. D'où il est normal que l'intelligence humaine ait deux modes de connaissance. L'une, abstraction universelle, l'autre, abstraction formelle. C'est-à-dire connaissance selon son intelligence. Alors on va essayer de voir ça la fois prochaine. Et c'est comme naturel à l'homme, créature, d'avoir deux modes de connaissance. C'est déjà très, très intéressant, ça. Je ne peux pas supprimer ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.